La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Nous sommes au mi-temps du 19e siècle. Un homme, à sa manière, va marquer l'histoire de la Belgique au travers de deux vies politiques distinctes. La première, au caractère national, se déroule du régime hollandais à l'indépendance. La seconde sera bruxelloise. Notre homme occupera les fonctions de bourgmestre jusqu'en 1860, l'année de sa mort. Crédit communal, loi d'expropriation, modernisation marqueront le parcours de cet homme qui fut à bien des égards paradoxal. Charles de Brouckère.
C'était au temps où Bruxelles bruxelait.
Un jour dans l'histoire.
Alors, pour évoquer Charles de Brouckère avec nous aujourd'hui, Éric de Marbais. Bonjour Éric de Marbais.
Bonjour.
Vous allez donner une conférence le 10 janvier, c'est-à-dire demain.
Demain. Hein,
à 11h, à la Fleur en papier doré, c'est rue des Alexiens au numéro 55 à Bruxelles. Alors Charles de Brouckère est né à Bruges le 18 janvier 1796. Milieu bourgeois, bien né Charles de Brouckère.
Milieu bourgeois et même très bien né puisque son papa Charles de Brouckère du même prénom, était avocat au Conseil de Flandre et échevin du franc de Bruges, donc en fait toutes des organisations de l'ancien régime.
Ouais. Et c'est à l'Athénée royal de Bruxelles qu'il va effectuer ses études secondaires. Et puis, à 18 ans, il choisit la carrière militaire qui est brève, mais assez prestigieuse.
Oui, oui, brève dans le sens où il sera très vite remarqué, sous-lieutenant à 19 ans, ouais. Capitaine en 1819, donc quand même très très jeune aussi. Et en fait, il va quitter cette carrière-là parce qu'il va faire, comme on dit à l'époque, un joli mariage.
En 1819, le 2 septembre, il épouse Marie Vichers avec qui il aura trois enfants. Donc il a quitté l'armée, sa carrière va prendre une direction plus politique. Il est nommé chef de division de l'administration provinciale du Limbourg, membre des états provinciaux du Limbourg, puis de la seconde chambre des états généraux des Pays-Bas. Et puis 1828, là c'est une étape importante puisqu'on le voit réclamer la liberté de la presse, ce qui ne plaît pas à tout le monde, c'est une chose assez étrange.
Non, effectivement, et 1828 est une année un petit peu charnière par rapport à ce qu'on va appeler la pré-révolution belge. C'est là que sur les choquiers, enfin pas sur les choquiers, de Potter et d'autres, ouais. Même sur les choquiers aussi d'ailleurs, vont commencer à montrer un petit peu les dents. Et entre autres, autre affaire justement de cette problématique de la liberté de la presse, il y a un petit problème pour Charles de Brouckère, c'est que son père est gouverneur du Limbourg. Mmh. Et un jour, avec une rencontre un petit peu houleuse avec Guillaume Ier des Pays-Bas, il y a une discussion entre le père et le roi où vous dites, mais enfin monsieur, votre fils, ben écoutez, mon fils, oui c'est mon fils, mais il est jeune, laissez-le un petit peu s'aguerrir.
Ouais. 1828, vous lisiez, c'est une étape importante, il accepte la charge de capitaine commandant de la garde urbaine de Maastricht, on est donc à la veille de la Révolution. Quelle est sa position à Charles de Brouckère au cours de ces événements?
Eh bien, il a une position un petit peu particulière et peut-être moins tranchante que d'autres. Il est favorable à cette séparation entre le nord et le sud, donc pas question de revenir à une situation espagnol, on ouais. va dire ça comme ça. Et il veut même, malgré tout, consolider ce royaume des Pays-Bas, donc garder une entité, mais que chacun ait peut-être un peu plus d'autonomie. Il sera membre de la commission de la Constitution dès les journées de septembre. Il va être commandant militaire, donc là c'est un peu un retour aux sources, on va dire, pour lui. Il va même être ministre de la guerre à un moment donné, donc c'est quand même assez important. Et il va cependant aussi voter l'exclusion de la famille d'Orange-Nassau à titre définitif du futur trône de Belgique.
Et alors, il faut s'arrêter sur l'épisode du duc de Nemours. Nous sommes en 1831 et la Belgique donc se cherche un roi. Alors,
On se cherche un roi et là, il y a une petite anecdote. En fait, on se tourne vers le duc de Nemours, donc un des fils du roi Louis-Philippe. Et en fait, on croit bien faire parce qu'on estime ici en Belgique qu'il faut un représentant d'une puissance forte. Il n'y a pas 36 solutions à l'époque. Il y a l'Angleterre, il y a la France qui sort un peu de sa période napoléonienne, en tout cas. Il y a éventuellement la Prusse, la Russie. Mais enfin, bon, est-ce qu'on doit aller chercher si loin quelqu'un pour diriger notre pays? Et en fait, le duc de Nemours, on croit que c'est la bonne solution. Et c'est la bonne solution qui sera entérinée une première fois par le gouvernement provisoire. On va aller à Paris demander cela officiellement. Et là, en fait, le roi va diplomatiquement et poliment refusé, parce que lui n'a pas envie de se mettre à dos l'ensemble des alliés, parce qu'on a peur un petit peu d'avoir finalement une réunion entre la Belgique et la France le jour où le roi Louis-Philippe décède.
Et c'est Surlet donc, de Chocquier qui va occuper la régence du royaume. Un mot de Surlet de Chocquier, c'est évidemment une pièce importante.
Surlet de Chocquier, je dirais dans des termes qu'on a peut-être un peu usurpés avec le temps, Surlet de Chocquier est le parfait serviteur de l'État. C'est quelqu'un qui va dépenser énormément d'énergie entre février 1831 et le 21 juillet 1831 pour essayer de placer les structures de l'État, avoir cette constitution qui a été fraîchement signée. Donc c'est un personnage vraiment important. Et qui sortira après dans son village natal d'ailleurs.
Régence du royaume jusqu'au 21 juillet 1831, cette date de l'accession donc, au trône de Léopold Ier. Nous sommes avec Éric de Marbet, on évoque Charles de Broucker et puis surtout son rôle, bien sûr, dans la construction de notre pays.
Je sens qu'on est...
Voilà, ambiance, évocation de l'époque avec un extrait de la danse hongroise numéro 5 de Johannes Brahms. Nous sommes avec Éric de Marbet. On évoque Charles de Broucker et son rôle donc dans la construction de la Belgique. Il est devenu ministre des Finances du tout nouveau royaume de Belgique. Un ministre assez retors, hein, Éric de Marbet, puisqu'il va plusieurs fois présenter sa démission. Pourquoi ?
Bien parce qu'en fait, dans la période entre février et juillet 1831, il y a quand même des difficultés à mettre ce fameux royaume de Belgique et ce futur gouvernement en place. Et donc, il a envie de prendre du recul. Et finalement, il va finir par obtenir cette démission de Surlet de Chocquier. Et comme je l'ai dit tantôt, après l'installation de Léopold Ier, il va remplir une fonction pas surprenante du tout, puisqu'il sera ministre de la guerre à un moment très délicat, puisque on a à peine éteint les lampions de la fête, on va dire ça comme ça, que les Hollandais décident de rentrer en Belgique le 3 août 1831. Et à ce moment-là, Charles de Broucker reprend le rôle de ministre de la guerre.
Et l'armée française apportera son aide à une armée belge assez...
Désorganisée, sans expérience. Ne pas oublier qu'une bonne partie des natifs belges faisait partie de l'armée néerlandaise à l'époque. C'est un peu ce qui a coûté la révolution d'ailleurs, puisque beaucoup de soldats étaient natifs belges dans le parc de Bruxelles du côté hollandais, donc c'est un peu particulier. Et voilà, donc les Français vont venir à notre secours pour, entre guillemets, sauver les meubles, parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre terme.
Alors, en octobre 31, tournant dans son parcours politique, puisqu'il quitte le service de l'État pour aller à la ville, alors est-ce que c'est le résultat, justement, de ces dissensions avec Léopold Ier, notamment, ou est-ce qu'il y a une réelle envie de servir
Je crois qu'il y a un changement. Et en fait, en 1831, attention, il quitte tout à fait la politique et ne se retrouve pas encore du tout à la ville de Bruxelles. Et il va avoir un passage, quand même, assez long, 17 ans, dans le privé, on va dire ça comme ça. Il va être professeur à la toute jeune Université libre de Bruxelles. Il va créer la Banque de Belgique, où il quitte ses fonctions en 1839 parce que ça se passe pas trop bien. Et il va aussi diriger une entreprise sidérurgique qui s'appelle la Vieille Montagne. Et donc voilà, il va gérer des caisses de secours. Il aura une vie vraiment dans ce secteur-là très, très active. Et comme certains, on a envie de revenir à ses premiers amours et il sera élu conseiller communal de la ville de Bruxelles le 27 mars 1847, c'est-à-dire un peu plus d'un an avant de devenir bourgmestre.
Voilà, en 1848, le 5 octobre, il est élu bourgmestre de la ville de Bruxelles. Quel gestionnaire sera-t-il ? Quelles sont ses priorités ?
Ses priorités, en fait, il est ce que moi j'appelle le dernier bourgmestre du Moyen-Âge de Bruxelles. Dans le sens où cette ville, depuis 1830 et même avant forcément, a très peu évolué. On a eu deux grosses transformations urbanistiques. C'est l'actuelle place des Martyrs et le quartier du Parc Royal avec le Palais Royal, la place Royale. Le reste est en l'état, on va dire, donc des rues très étroites, peu de boulevards, des choses pareilles. On est toujours occupé à démolir la seconde enceinte. C'est quand même donc pas question d'avoir ces grands boulevards promenades à l'extérieur. Et il va aussi jouer un rôle quand même assez important dans le côté social. Je crois qu'on y reviendra d'ailleurs un petit peu tantôt.
On y reviendra tout à l'heure, mais vous évoquiez donc ces remparts qui entourent encore en partie Bruxelles. C'est-à-dire qu'il y a un intérieur et un extérieur des murs et il y a toujours une taxe qui est très impopulaire, qui est l'octroi.
Oui.
Charles Le Broquer va jouer un rôle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'octroi ?
Alors, l'octroi, en fait, est une taxe qui est perçue sur toute marchandise qui rentre dans la ville, donc par, à cette époque-là, avec le développement du quartier Léopold et du quartier de l'avenue Louise, à un moment donné, au lieu des 7 portes initiales, plus la porte de rivage au canal, on va avoir 12 portes d'entrée et de sortie, forcément, dans la ville, où on va percevoir toute une série de taxes sur tout bien rentrant dans la ville. Ça veut dire simplement que acheter un pain à la plaine de l'Intout Extramuros coûtait moins cher que d'acheter son pain rue Haute.
Et les femmes, d'ailleurs, sont souvent attrapées en passant en fraude.
Ça, de ce côté-là, il y a effectivement toute une série de conseils communaux. C'est assez amusant à lire parce que là, il faut lire l'imaginativité des gens pour essayer justement de frauder la taxe. Et il y a des choses super, super amusantes. Mais bon, tout est saisi. Le seul bon côté de la chose, c'est qu'en fait, la marchandise périssable qui est saisie est offerte aux associations de bienfaisance.
Charles Le Broquer avec Éric de Marbret. Une petite évocation ici des changements dans la ville de Bruxelles. Vous les évoquiez tout à l'heure. Éric de Marbret, de Broquer notamment, a fait percer l'avenue Louise. Voici un extrait d'un reportage datant de 1965. C'est une archive de la Sonuma.
La première caractéristique d'une ville est qu'elle se transforme constamment selon les nécessités, les caprices de la vie moderne. Il est préférable de ne pas s'attacher trop à un vieux quartier menacé d'être détruit. Il faut suivre le rythme des métamorphoses et miser plutôt sur l'avenir. Il faut penser ville dans le sens de mouvement, de changement.
Tous les jours, 13h30, 14h30, un jour dans l'histoire.
On reviendra tout à l'heure avec vous, Éric de Marbret, sur le rôle dans la modernisation de la ville, dans les travaux pour contrer l'insalubrité de Bruxelles à l'époque. Mais on va s'arrêter au milieu du 19e siècle, 2 décembre 1851. Là, on est à côté dans l'Hexagone. C'est le coup d'État en France, violation de la Constitution. Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République depuis 3 ans, conserve le pouvoir alors que cette Constitution le lui interdit. Donc, certains de ses opposants vont prendre l'exil. Victor Hugo, notamment, se réfugie en Belgique. Charles Le Broquer les soutient.
Alors, Charles Le Broquer soutient effectivement la grosse majorité des exilés qui passent par dans d'autres pays. Tout le monde, ils ne vont pas tous rester à Bruxelles, mais c'est vrai que le plus emblématique d'entre eux, c'est naturellement Victor Hugo, qui s'installe Grand Place, donc juste en face de l'hôtel de ville. Et il va participer à des tas de réunions avec des amis d'infortune, on va dire ça comme ça. Et on se réunit où? Eh bien, dans quelque chose, dans un endroit qui est très à la mode à l'époque, ce sont les toutes fraîches, toutes neuves Galeries Royales Saint-Hubert qui ont été inaugurées en 1847. Donc c'est vraiment tout neuf. Et donc voilà notre ami Victor Hugo qui participe à des réunions dans des différents établissements, l'Aigle rue de la Fourche, la mort subite à la rue des Bouchers, le Grand Café à la rue des Éperonniers et aussi quelque chose qui a tout à fait disparu aujourd'hui, au 1000 colonnes, place de la Monnaie, juste à côté du théâtre.
À Victor Hugo que l'on soutient, mais il y a des limites quand même. Son pamphlet,
Il y a effectivement des limites. Il habite Grand Place en face de Charles de Broquer, de l'hôtel de ville, on va dire. Charles de Broquer, on dit, lui rendait visite quasi tous les jours, ce qui est tout à fait possible. Il avait aussi les visites régulières d'un certain Charles Rogier, d'origine française, pas l'oublier. Et un jour, effectivement, Victor Hugo, par respect de la parole donnée, décide de quitter Bruxelles pour aller dans les îles anglo-normandes, tout simplement parce que 2 jours après son départ, paraît le fameux pamphlet de Napoléon le Petit.
Alors, il faut signaler également, dans ces années 1850, donc de 1852 à 55 exactement, que c'est la seule période de l'histoire de la Belgique et de Bruxelles où les relations du pouvoir entre l'État et la ville sont aux mains d'une seule et même famille.
Oui, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, on aura Charles à la ville et Henri à l'État, on va dire ça comme ça. Ça va quand même se passer pendant plus de 2 ans et demi. Donc, c'est pas éphémère, on va dire, en 2 ans et demi. Il y a pas mal de choses qui peuvent quand même se passer. Période, j'imagine, très difficile pour les deux frères, parce que les intérêts de l'un ne sont pas toujours les intérêts de l'autre.
Ça créera des tensions également dans le milieu politique.
Je n'ai pas connaissance de réelles tensions entre les deux frères. Les tensions politiques vont se passer, je dirais, plus après la période d'Henri de Brouckère à la tête du gouvernement, avec cette fameuse loi dite des couvents de 1856-57. Donc, qui est une loi de réorganisation de toute la bienfaisance en Belgique.
Alors, avant justement cette réorganisation, il faut également, enfin au même moment à peu près, il faut aussi prendre en compte l'état d'insalubrité dans lequel baigne Bruxelles, avec la Seine notamment, qui est la source de beaucoup de maux. Charles de Brouckère va prendre ça très au sérieux.
Charles de Brouckère prend ça très au sérieux et y a différents éléments dont il faut tenir compte. Il y a la Seine qui est une rivière hyper capricieuse et qui déborde d'ailleurs même encore aujourd'hui, on l'entend déborder, ouais. Mais en dehors de la ville forcément. Donc ça c'est un problème, c'est la rivière. La deuxième chose c'est qu'on a de façon plus ou moins récurrente des épidémies de choléra et on va mettre ces épidémies de choléra sur le fait que la Seine est une rivière, n'est même plus une rivière, est un égout à ciel ouvert. Ouais. Et donc, Charles de Brouckère va faire tout ce qui est nécessaire pour améliorer, dans le bon sens du terme, pour lui en tout cas, toutes les fameuses lois d'expropriation qui remontent à l'époque napoléonienne. Et à un moment donné, on va effectivement avoir cette fameuse loi d'expropriation pour cause d'utilité publique et non plus pour cause d'expropriation, parce qu'on ne paye pas son loyer, parce que ceci, parce que cela. Ici, c'est vraiment la loi qui est vraiment écrite pour. Il n'y a pas d'autre terme.
Avec dans également encore la restructuration de Bruxelles, le futur quartier Léopold, qui est destiné, lui, là, à une population bien spécifique.
Alors, c'est effectivement destiné à une population très spécifique. Et il y a quelque chose d'assez particulier, parce que ce quartier Léopold et le quartier Louise va permettre à l'aristocratie et la haute bourgeoisie bruxelloise de sortir de l'extramuros avant la suppression des taxes d'octroi en juillet 1860. Et pendant cette même période, en fait, Jules Anspach, un des successeurs de Brouckère, va réaliser le voûtement de la Seine, créer ce fameux grand boulevard haussmannien, et y créer quelque chose qu'on ne connaît pas encore à Bruxelles, c'est les grands appartements. Et ces grands appartements vont rester vides. À la grande différence de Paris où la mode prend très vite forme, et à Bruxelles ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que justement la population aisée a déjà quitté la ville, et donc là il y aura quand même quelques petits soucis de ce côté-là.
Charles de Brouckère avec nous, Éric de Marbet.
Un jour dans l'histoire.
Voilà, Charles de Brouckère. Donc, il faudrait encore évoquer Éric de Marbet, par exemple, le fiasco du jardin zoologique, 1847, volonté de bourgeois qui rachètent des hectares de terrain, mais au fond, la population ne s'y intéresse pas. Mais on va sauter cet épisode puisqu'on a eu un petit peu, on était un peu bousculé aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne encore sur la modernisation au fond de la capitale. Lorsqu'on voit l'état des rues aujourd'hui à Bruxelles, on a quand même peine à imaginer qu'il fut une époque où elle était reconnue comme pays précurseur en matière d'hygiène publique.
Mais en fait, il y a effectivement une dualité dans l'approche de la ville de Bruxelles au milieu du 19e, parce que d'un côté, c'est vrai qu'on sent que le politique s'intéresse très fort à cette nouvelle science, quelque part, qui est l'hygiène. C'est quelque chose de neuf, ouais. Quand même, surtout au niveau politique. Et le fait que Bruxelles commence à avoir un nombre incroyable d'impasses, pas uniquement mal famé, mais où l'hygiène est catastrophique. On vit à je ne sais pas combien de personnes dans une pièce, dans deux quand tout va bien, dans une impasse avec 10 maisons et peut-être 150 habitants, il y a une toilette au fond de la cour pour tout le monde. Pas mal de gens, d'ouvriers, travaillent à domicile, entre guillemets. recanner les déchets, ouais. Faire des parapluies et des tas de choses pareilles. Donc on vit dans un espace totalement incroyable et on a beau aller sur place, il y a des gens qui restent accrochés, vissés à leur demeure, ils ne veulent pas quitter leur maison ou leur quartier et ça donne des situations quand même assez catastrophiques. Et il faudra attendre en fait Adolf Max et cette fameuse étude sociale des années 32-36 pour qu'on prenne vraiment la décision de supprimer progressivement toute une série d'impasses. La première grosse transformation des impasses, la suppression des impasses, va quand même se passer au moment de la jonction Normidie aussi, hein, dans les années 20.
Et c'est Charles de Beaucaire qui va quand même commencer à faire installer l'eau courante, l'électricité.
Alors effectivement, l'eau courante, ça c'est un élément important parce qu'il faut remonter juste avant sa nomination comme bourgmestre, en 1847, on a un ingénieur du nom de Le Hardy de Beaulieu qui va placer à travers Bruxelles ce qu'on appelle des plaques de nivellement. Il y en a 141 qui vont être placées, il en reste malheureusement 11 aujourd'hui, c'est plus beaucoup. Encore bien visible quand même. Et ces plaques, en fait, vont permettre de voir à quel endroit on est par rapport au niveau de la mer, par rapport à un autre niveau qui est le point le plus bas de Bruxelles, le pont Léopold, donc qui correspond, pour faire simple, au garage Citroën aujourd'hui, près de la place Saint-Clet. Et cette installation des plaques va permettre alors à ce moment-là la construction d'un réseau de distribution d'eau courante. Le gros problème pour la population la plus pauvre, c'est qu'on passe d'une eau gratuite à une eau payante.
Ouais. Alors justement, est-ce qu'il est soucieux du bien-être des ouvriers et des plus démunis, Charles de Beaucaire?
Oui, il l'est, parce qu'il va quand même y avoir, au long de son majorat, quelques petits soucis, entre autres la fameuse révolte des pains. Mm-hmm. Cette révolte des pains, en fait, les gens les plus pauvres vont constater qu'en fait, le pain d'un kilo n'est plus qu'un pain de 900 grammes, c'est une image, mais pour le même prix, donc ouais. Quelque part, on est un peu lésé sur l'affaire. Et qu'en plus, un autre problème, c'est que les salaires n'ont plus évolué depuis 1830. Ce qui est quand même, aujourd'hui, on n'ose pas imaginer une chose pareille. Et donc, finalement, tout d'un coup, on va augmenter toute une série de salaires d'un montant quand même, un pourcentage assez important, puisqu'on parle de 23%. Inutile de vous dire que ça n'a pas plu à tous les patrons non plus.
Alors, paradoxal également encore, Charles de Beaucaire, qui respecte, donc il demandait la liberté de la presse, on l'a dit, qui respecte le mariage civil et la liberté de conscience, là aussi jusqu'à un certain point.
Jusqu'à un certain point, parce que c'est vrai qu'il y a une anecdote avec le décès d'un policier qui vivait en concubinage, on va dire ça comme ça. Et en fait, à la fin de la cérémonie, le curé de l'église des Minimes n'a rien trouvé de mieux que de considérer que c'était un sacrilège. C'est arrivé aux oreilles de Charles de Beaucaire, qui a supprimé du jour au lendemain l'aide policière de garde lors des messes de l'église des Minimes à cette époque-là.
Un homme moderne, en avance sur son temps, qui est pas toujours du côté de la tradition. Il veut par exemple supprimer le lundi perdu.
Ah oui, le lundi perdu, c'est quelque chose d'un tout petit peu particulier, puisque c'est le premier lundi de l'année, donc c'était l'occasion des étrennes. Enfin, on connaît ça encore aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça, mais bon, voilà. Et l'origine, en fait, remonterait au Moyen-Âge, où les ouvriers allaient en fait écouter la lecture du livre de leur corporation. Donc c'était, j'imagine, l'occasion de remettre un petit peu les choses, les montres à l'heure et rafraîchir la mémoire de ce qu'on pouvait faire et ne pas faire au sein de sa corporation. Et dans le même ordre d'idée, il y a une autre tradition nettement plus malheureuse à laquelle il mettra fin, c'est le fameux tour des enfants perdus.
Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que ce tour des enfants perdus? Alors, on a une minute.
On parle bien le tour des enfants perdus. Eh bien, en fait, c'est la maman qui abandonne son enfant parce qu'elle ne peut pas assumer financièrement. Et on mettait l'enfant dans un tour, on prenait la moitié d'une carte à jouer et si un jour, malheureusement, ou heureusement, ça dépend, on voulait récupérer l'enfant, on remettait les deux morceaux de cartes ensemble pour vérifier que c'était bien l'enfant en question.
Et ça, il va pouvoir mettre fin à cette pratique.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, Bruxelles sera la dernière ville du pays à avoir un tour des enfants perdus.
Le 16 avril 1860, Charles de Beaucaire rentre malade d'un voyage à Paris. Il décède le 20 avril à Bruxelles, à la rue des 12 Apôtres. On va pouvoir prolonger et approfondir cette réflexion autour de Charles de Beaucaire avec vous, Éric de Marbet, demain, donc dès 11h, à la Fleur en papier doré, rue des Alexiens, numéro 55 à Bruxelles. Merci beaucoup, Éric de Marbet.
Merci.